Chers amis des cellules, bonjour. Dimanche prochain commence le temps de l'Avent, et ce premier dimanche de l'Avent nous tourne vers la venue glorieuse de Jésus. Il nous rappelle que nous sommes tout tendus vers la venue en gloire du Seigneur Jésus ressuscité. En effet, comme il l'a promis à ses disciples, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. L'évangile que nous entendrons l'évoquera, car en même temps qu'il annoncera que les puissances des cieux seront ébranlées, il dit que l'on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Ce sera au chapitre 21 de l'Évangile selon saint Luc. Cette rencontre avec Jésus glorieux nous invite à réfléchir à une autre rencontre que nous pourrons faire avec Jésus si nous venons à mourir avant sa venue glorieuse, avant la fin du monde, avant ce que l'on appelle la parousie, sa venue en gloire. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1022 nous dit ceci: « Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ. » Si nous attendons la venue glorieuse de Jésus et le jugement qui révélera le sens de toute l'histoire et comment toutes les histoires auront participé au dessein de Dieu, il nous est aussi annoncé dans la tradition de l'Église qu'au moment de notre mort, nous aurons une rencontre avec le Seigneur Jésus et qu'elle donnera lieu à un jugement particulier sur notre vie, laquelle sera référée à la vie même de Jésus, sera examinée à la lumière même de la vie de Jésus. C'est de cette rencontre au moment de notre mort avec Jésus dont je voudrais vous parler ce soir. Commençons par rappeler un petit élément de métaphysique sur l'instant de la mort. En métaphysique, on va parler de la mort comme du moment où le corps et l'âme se séparent. La mort est actée quand l'âme s'est détachée de son corps. Cependant, ce détachement semble, d'après la tradition de l'Église, s'opérer dans un processus. De la même façon que, on pourrait dire analogiquement en médecine, il ne suffit pas que le cœur se soit arrêté de battre ou que la respiration ait cessé pour déclarer quelqu'un de mort, mais qu'il faut que l'on constate plusieurs éléments pour déclarer quelqu'un mort cliniquement, le signe probant de la mort étant justement la décomposition du cadavre. En effet, lorsque le processus de décomposition s'est enclenché, il n'y a plus de réanimation possible ou observée en médecine. De même, il y a un processus de séparation de l'âme et du corps. Une image toute simple peut l'évoquer: quand vous soufflez la flamme d'une bougie, vous voyez que la mèche fume encore un temps avant qu'elle ne soit totalement éteinte. Et à ce moment-là, il n'y a plus de fumée qui s'en échappe. Le processus est achevé. La tradition de l'Église ne nous donne pas d'informations assurées sur la durée de ce processus. Elle tendrait plutôt à dire que ce processus peut varier selon que la personne était plus ou moins prête à ce passage de la vie de cette terre à la vie éternelle. Ce processus, selon saint Grégoire le Grand, serait plus lent sur ce qu'il appelle les âmes alourdies par les passions charnelles, attachées aux richesses, attachées aux jouissances des biens matériels, voulant prolonger l'existence terrestre mais ne le pouvant plus, et n'osant pas encore pleinement avancer dans l'au-delà. Dans ce processus, il y a alors une rencontre avec le Christ. Une rencontre avec le Christ glorieux, nous dit saint Thomas d'Aquin. C'est dans son humanité glorieuse qu'il vient au-devant de nous pour nous inviter à sa suite. Glorieux, il n'aura pas besoin de parler, en ce sens que glorieux, son corps est pleinement transparent à l'esprit. Nos corps terrestres sont encore opaques et c'est pour ça qu'ils permettent le mensonge. Ils peuvent cacher ce que l'esprit est. Le corps glorieux manifeste sans aucun détour la justesse, la vérité de l'esprit. Et donc nous verrons en Jésus la plénitude de l'humilité, la plénitude de sa douceur, de sa tendresse, de la miséricorde de Dieu. Ce sera comme le soleil qui brille de tout son éclat et qui illuminera notre vie. Toute notre vie apparaîtra dans sa pureté, mais aussi dans toutes ses imperfections, dans toutes ses impuretés, dans tous ses refus. Tout sera mis au jour. D'une certaine manière, nous verrons ce que notre vie aurait dû être et ce qu'elle a été. Ce sera un jugement en tant que révélation et non pas en tant que procès avec des débats contradictoires. Ce sera le moment où la disposition de notre cœur se déterminera définitivement. Soit nous étreindrons le Christ pour ne faire plus qu'un avec lui, et que son amour brûle nos péchés, nos imperfections, et nous serons ultimement conduits au paradis parce que, en Christ, nous serons devenus capables de soutenir la lumière béatifique. Soit nous refuserons cette invitation du Christ, nous préférerons nous aimer au mépris de Dieu, pour reprendre une formule de saint Augustin. Un mot sur cette détermination. Nous voyons que dans les évangiles, l'épisode de celui qu'on appelle le bon larron montre que jusqu'au terme de notre vie, il nous est possible de nous ouvrir à la miséricorde de Dieu. Ce larron sur la croix qui reconnaît la gravité de son péché au point de dire que c'était un sort juste qu'on le crucifia, demande à Jésus sa miséricorde. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus se saisit de cette ouverture pour lui annoncer qu'il sera avec lui dans le paradis. Cependant, cette disposition du cœur pour choisir le Christ n'est pas purement formelle. Elle ne relève pas, pour prendre une image, de quelqu'un qui serait devant deux portes, l'une avec marquée enfer et l'autre marquée paradis, et il se dirait « je ne suis pas bête, j'ai vécu n'importe comment, mais je vais choisir la porte où il y a marqué paradis ». Le choix du Christ, le choix de Jésus, c'est le choix d'aimer comme lui, de vouloir aimer comme lui. Et plus nous nous y serons disposés dans notre vie, plus il sera simple de le reconnaître et de le choisir. Souvenons-nous des épisodes de la résurrection. Tous ont du mal à reconnaître Jésus ressuscité, mais c'est en le voyant faire ce qu'il avait fait avant la passion qu'ils le reconnaissent. Et donc plus notre histoire avec Jésus dans cette vie, plus nos efforts pour aimer comme Jésus aime, plus nos efforts pour nous ouvrir à sa miséricorde seront nourris, plus il sera simple de nous abandonner à son amour. Moins nous l'aurons fait, plus cela sera compliqué. Le Christ est celui qui est tout disposé à nous offrir le salut. Encore faut-il le voir, fait remarquer saint Thomas d'Aquin. Cependant, le moment de notre mort est aussi le moment où la grâce de Dieu se fait la plus pressante pour nous appeler, car Dieu veut vraiment notre salut. Il l'a prouvé par la mort et la résurrection de son Fils. C'est pour nous et pour notre salut qu'il est venu sur cette terre. Il vient lui-même, il n'envoie pas un sous-fifre, Il vient personnellement pour chacun, et il vient aussi entouré des saints et des saintes de Dieu, en particulier les saints de notre lignée, ceux qui nous ont précédés de notre famille et qui nous appellent à entrer dans le royaume. Cette grâce de Dieu qui nous est offerte nous aide à entrer dans cette triple humilité nécessaire à la vie éternelle. Première humilité, d'admettre que nous n'existons que dans la volonté de Dieu. Assurément, sur cette terre, nous pouvons entretenir notre vie en prenant soin, en mangeant, mais notre existence, le fait d'exister, lui, nous est donné par Dieu. Je ne me la donne pas, je ne me suis pas créé moi-même. Entrer dans la vie éternelle, c'est accepter d'être créature qui reçoit sa vie de Dieu. C'est la première humilité. La deuxième humilité, c'est que si Jésus ne me sauve pas, eh bien, je me condamnerai moi-même. Car en voyant la moindre imperfection de ma vie, Je me dirai que je n'ai aucun droit à la vie éternelle, que la moindre tâche ne me permet pas de me tenir dans cette lumière, et je voudrais m'enfuir, me cacher. Il faut que je consente à me laisser sauver par Jésus, à me laisser purifier par Jésus. Je dois admettre que je dépends autant de mon Créateur que de mon Sauveur. Je n'ai par moi-même aucun droit à la vie éternelle, mais je reconnais que le Seigneur Jésus a voulu me sauver, et j'ai confiance en lui, car à lui tout est possible, même de me sanctifier, même de me rendre saint. C'est la deuxième humilité. La troisième humilité, c'est d'admettre que mon bonheur ne peut être que participation à l'Esprit-Saint, à être vie dans l'Esprit-Saint. Je ne peux pas faire mon bonheur tout seul, je ne suis pas autosuffisant, je ne peux vivre que par l'Esprit-Saint, l'Esprit de communion, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour. C'est la troisième humilité. Ainsi nous disons, Père, je ne veux être créé que par toi. Seigneur Jésus, je ne veux être sauvé que par toi. Esprit Saint, je ne veux vivre qu'en toi. Sainte Thérèse de Lisieux, qui s'était pénétrée de ces trois humilités, disait « Je ne veux paraître devant Dieu que couverte de la seule humanité de Jésus. » Jésus, le Verbe incarné, le Fils bien-aimé du Père, totalement rempli de l'Esprit Saint. Si nous nous imprégnons de cette doctrine de l'Église, nous nous en souviendrons le moment venu. Cette mémoire nous éclairera au moment de notre mort, et nous consentirons à ce dépouillement des biens terrestres un peu à la manière de Bartimée, qui rejette son manteau pour aller d'un bond vers Jésus qui l'appelle. Ayons confiance dans la grâce de notre baptême, ayons confiance dans la prière de l'Église et de celle de la Vierge Marie en particulier, elle qui prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, sachant que nous serons dans l'état spirituel où la mort nous surprend, prenons l'habitude de nous préparer à cette rencontre avec le Christ, à la désirer, pour que notre choix définitif de vivre avec lui, de nous ouvrir à sa grâce et de le suivre en paradis, soit simple, clair et bienheureux. Je vous souhaite de bons échanges.